J'imagine que comme moi, vous avez toutes et tous déjà remarqué que si l'on fait abstraction de la politique, la nature qui nous entoure est plutôt stable et étonnamment compréhensible. Par exemple, je suis certain que même sans y penser, là en m'écoutant, vous savez que ce soir le soleil se couchera. Je ne pense pas que vous êtes nombreuses ou nombreux à imaginer qu'il pourrait soudain dessiner des ronds dans le ciel ou faire demi-tour, sans parler de disparaître comme ça tout d'un coup. Ce que ça signifie, c'est qu'on a toutes et tous la certitude que le soleil ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il obéit, qu'il le veuille ou non, à certaines lois. Et cette idée ne s'applique pas qu'au soleil. Personne n'imagine qu'une montagne puisse soudain se soulever et s'envoler, ou qu'une rivière change de direction pour remonter vers sa source. C'est à partir de ce genre de considération que certains de nos ancêtres ont créé une discipline que l'on appelle aujourd'hui la physique théorique, et dont le but ultime est de trouver les lois qui régissent notre réalité. Alors évidemment, cette tentative aurait pu complètement échouer. On n'aurait pu ne jamais trouver la moindre loi cachée. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On a trouvé des lois. Et au fur et à mesure de ces découvertes, notre vision du monde a complètement changé. Je vous donne un exemple. Un des premiers humains à avoir eu l'intuition qu'il existait des lois est le philosophe grec Aristote. C'était il y a environ 2400 ans. Pour lui, l'univers tout entier était coupé en deux. Il y avait le domaine des humains qui allait de la Terre à la Lune, et il y avait le domaine des dieux qui commençait à la Lune et s'étirait jusqu'on ne sait pas trop, mais loin. Dans la vision d'Aristote, nous, les humains, on pouvait comprendre les lois de la nature sur notre planète, et peut-être sur la Lune, mais pas au-delà. Au-delà, c'était le domaine des dieux, c'était pas pour nous. Cette vision d'un univers coupé en deux a prévalu en Europe pendant plus de 2000 ans, ce qui est extraordinairement long pour une théorie, surtout quand elle est fausse. Elle a prévalu jusqu'à ce qu'arrive Isaac Newton. Tout le monde connaît Isaac Newton, au moins de nom. Et tout le monde sait ce qu'il a fait. Il nous a donné sa loi de la gravitation universelle. Il nous a donné une formule qui décrit le mouvement des objets lorsqu'ils sont soumis à la gravitation. En gros, ça veut dire que si on lance quelque chose, on peut utiliser sa loi et prédire, par le calcul, où ça va tomber. Et ce qui est fou, c'est que ça marche. Mais ce qui est plus fou encore, c'est que sa loi, il l'a pas juste appelée gravitation, mais loi de la gravitation universelle. Le mot important, c'est universel. Newton pensait que sa loi s'appliquait certes sur Terre, mais aussi par-delà la Lune, dans l'univers tout entier. Et une fois de plus, ça fonctionnait. Avec sa formule, on pouvait prédire le mouvement des astres. Newton venait de faire disparaître d'un seul coup tout le domaine des dieux. Et l'univers tout entier nous était désormais accessible, offrant à notre imagination un terrain de jeu extraordinairement plus vaste que tout ce que nos ancêtres avaient pu imaginer. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après Newton est venu Einstein, qui a de nouveau transformé notre vision du monde. Et c'est pour parler de cette vision, ainsi que de comment nous pourrions aller plus loin encore, que j'ai l'honneur d'accueillir mes deux fabuleuses invitées.
Bonjour, bonjour Christophe, bonjour Emma, Mona, bonjour tout le monde. Je suis Claudia Durham, je suis professeure à Imperial College, ça c'est à Londres, et je suis fascinée par le phénomène de la gravitation, peut-être parce qu'il a un côté provocateur, amusant, et on va en parler.
Moi je suis Vima Laponce, bonjour Claudia, bonjour tout le monde, je suis auteure, performeuse, équilibriste, metteur en scène. Et pour moi, défier la gravité, ça a été un peu le combat de toute ma vie en ce moment. Et en vous rencontrant, je me rends compte que de toute façon, ce n'est pas un combat, justement, c'est une négociation tout le temps. C'est à la fois, ouais, c'est une sorte de négociation silencieuse entre soi et la Terre. Et c'est surtout un geste à la fois très technique et un acte poétique.
Claudia Durham, Vima Laponce, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct et en public depuis la Maison de la Radio et nous allons parler de gravitation.
Big Bang, Christophe Galfard.
Claudia Durham, j'ai une petite question pour vous. J'ai dit dans mon introduction que grâce à Newton, on avait une vision de la gravitation et un peu du mouvement des astres qui sont autour de nous. Est-ce que grâce à sa théorie, on arrive à tout comprendre du mouvement des astres qui sont dans l'espace?
Mais pratiquement, oui. En fait, c'est incroyable et ça ne s'applique pas seulement au mouvement des astres, au mouvement des planètes, à notre compréhension de comment évoluer sur Terre, de comment les satellites évoluent. Mais en fait, un aspect universel de la loi de Newton, c'est qu'il s'applique à tout le monde. Et par tout le monde, je dis non seulement vous et moi, indépendamment de qui nous sommes, mais également indépendamment de vraiment de quoi nous sommes faits. Donc, il s'applique à des objets comme des planètes, mais également à des étoiles, et également à des gaz, mais également à des substances qui peuvent être même impalpables, comme la matière sombre, comme la matière noire. Ou la lumière, exactement. Et ce côté universel, même Newton le savait lui-même. Et ce qui veut dire qu'on comprend pas non seulement le phénomène de la gravitation ici sur Terre, mais également dans le système solaire, mais ce n'est pas seulement maintenant ici, c'est dans toute l'histoire de l'univers. Et même grâce à la loi de Newton, on peut comprendre l'évolution de l'univers depuis une microseconde, même moins d'une seconde depuis le début de l'univers, jusqu'à de nos jours avec une précision mais absolument incroyable, c'est magnifique.
Et pourtant, la loi de Newton ne fonctionne pas partout. Il y a des moments où elle a des limites. Il y a une vision de notre propre système solaire, c'est-à-dire de tout ce qui tourne autour du Soleil. Il y a la Terre, il y a d'autres planètes, il y a les comètes, etc. Et lorsque Newton s'est mis à dire que sa gravitation était universelle, évidemment, il fallait le vérifier. Alors pour le vérifier, on fait comment ? On regarde sa loi, on voit qu'il y a des planètes partout et on essaie de déterminer comment elles tournent. Alors on va faire quelques petits anachronismes, on va regarder tout ça avec notre savoir d'aujourd'hui. Et on voit que sur les 8 planètes qui sont autour du Soleil, même à l'époque de Newton, on pourrait dire qu'il y en a 2 en particulier qui ne tournaient pas exactement comme sa loi le prédisait. L'une d'entre elles, c'est une des plus lointaines, c'est Uranus. Uranus tournait pas vraiment comme Newton le prédisait. Et pour la faire bien tourner, les scientifiques de l'époque ont rajouté une planète qui s'appelle Neptune et qui a été découverte comme ça. On ne savait pas que Neptune était là, on l'a découverte parce qu'Uranus ne tournait pas droit. Et ça, ça a donné une confiance extraordinaire dans la théorie. On avait une théorie qui nous a permis de découvrir une autre planète. Claudia, vous avez mentionné la matière noire et l'énergie sombre il y a quelques instants. C'est peut-être équivalent à cette petite planète qui a été découverte, qui est Neptune, dans la théorie d'Einstein dont nous allons parler dans quelques instants, parce que il y a un autre endroit où la théorie de Newton ne fonctionne pas, c'est lorsqu'on se rapproche un petit peu trop du Soleil. Là, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, ne tourne pas exactement comme il faut. Et quoi qu'on ait essayé de faire, on n'a jamais réussi à trouver une autre planète ou à trouver une raison dans Newton pour la faire tourner. Et c'est là que commence quelque chose que la physique théorique permet, c'est l'imagination. Et il a fallu imaginer quelque chose d'autre pour que Mercure tourne bien autour du Soleil. Je crois que c'est Einstein qui nous a donné une autre théorie de la gravitation. Est-ce que vous pourriez nous décrire, Claudia, ce que Einstein a fait pour que Newton tourne bien ?
Pour que Newton tourne bien à l'époque,
Mercure,
oui.
Pardon.
Et Mercure également. Alors c'est une longue histoire, mais en effet, pendant des siècles, la loi de Newton a fonctionné absolument parfaitement. Et même lorsqu'on dit qu'elle ne marchait plus au niveau de Mercure, il faut juste imaginer que le niveau de précision est incroyable. Mercure tourne bien à un niveau de précision qui allait du style de 0, je vais compter, 0,0008%. Donc c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que même en prenant en compte toutes les planètes du système solaire et leur effet qu'elles auraient, également du Soleil sur Mercure, ça tournait pas tout à fait comme il fallait. En fait, juste pour voir comment ce qui cloche, c'est que quand normalement une planète elle tourne autour du Soleil par rapport à la loi de Newton, il faudrait après un tour qu'elle retourne sur elle-même. C'est pas vraiment rond, c'est une éclipse, mais on penserait que cette éclipse elle reviendrait identique à elle-même. Et on sait que c'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a d'autres planètes, alors elles les attirent un tout petit peu et ces éclipses, elles sont
ellipses.
Ces ellipses, elles sont un tout petit peu tournées. Et ce que Einstein a compris, en fait, c'est que l'effet de la gravitation n'est pas juste un effet qui est statique dans l'espace, mais en fait, il faut prendre en compte tout un autre schéma géométrique et en particulier le schéma du temps. Et il y a un effet dans l'espace et dans le temps. Mais vraiment, pour comprendre pourquoi la notion de temps est si importante, on peut retourner à l'idée de Newton, parce que Newton lui-même avait compris, depuis sa formulation de la théorie de universelle de la gravitation, que ça pouvait pas être la fin de l'histoire. Dans la loi de Newton, de la gravitation, l'information sur l'échange gravitationnel qu'on aurait entre vous et moi, par exemple, ou entre nous et la Terre, ou entre les planètes et le Soleil, est instantanée. Ce qui voudrait dire que, évidemment, le Soleil ne va pas tout d'un coup disparaître, mais si le Soleil disparaissait tout d'un coup, on s'attendrait à ce que, pour nous, sur Terre, ça prenne un petit moment pour réaliser qu'il n'y ait plus de lumière qui vient du Soleil, parce que la lumière prend un certain moment pour se propager entre le Soleil et nous. Ça prend 8 minutes, en fait. Mais dans la loi de Newton, on dirait que c'est l'information sur l'effet gravitationnel du Soleil sur la Terre apparaît instantanée.
Donc, pour si le Soleil disparaissait là maintenant, ben on le sentirait tout de suite.
On le sentirait tout de suite. La Terre, tout d'un coup, elle irait en ligne droite au lieu de suivre une orbite.
Je vois Vimala qui a peur que le Soleil disparaisse.
Alors,
tout d'un coup.
On va pas toucher au Soleil juste là. Mais c'est juste pour donner un exemple. Ce qu'il faut voir en physique théorique, et je crois que c'est la même chose dans toutes les disciplines, c'est qu'il y a un niveau de créativité. On peut se permettre de penser à ce qui se passerait si tout d'un coup on enlèverait le Soleil. Et ça, évidemment, c'est pas une expérience qu'on va faire, mais juste pour avoir un schéma de pensée de ce qui se passerait, ça nous permet, même à Newton, de réaliser qu'il y a quelque chose qui clochait dans sa théorie. Il le savait. Et même s'il a fallu attendre 2 siècles pour avoir un niveau de précision sur nos observations astronomiques qui soit suffisante pour réaliser qu'en effet, ça cloche, on savait dès le début qu'il fallait autre chose que juste sa théorie de la gravitation universelle, même si le nom est excellent.
Peut-être que pour réveiller Vimala Ponce qui nous arrive, est-ce que on...
Je suis réveillée, je suis en transe.
Et moi aussi.
Ce qui n'est pas loin
ça.
Du sommeil, effectivement.
Justement, c'est cet état qui est extraordinaire, je pense, qui ressemble pas mal à un état de création artistique, qui est lorsque un scientifique se retrouve face à un mystère. Lorsqu'on est face à un mystère, on n'a rien. Il faut qu'on invente les outils, il faut qu'on invente les pinceaux, la toile, l'encre, tout, pour dessiner quelque chose. Je vais vous comparer à Einstein, là, maintenant, et vous demander si vous auriez une idée de comment rectifier la gravitation de Newton pour qu'elle fonctionne. Les idées peuvent venir de n'importe où. Vous pourriez être en train de jouer sur une scène et vous demander soudain, mais qu'est-ce qui fait que je suis en train de tenir debout? C'est quelque chose qu'on peut transformer artistiquement en autre chose. Est-ce que c'est le genre de question que vous vous posez parfois?
En tout cas, je pense que de le voir comme un réajustement perpétuel, un rétablissement perpétuel et un enseignement en fait aussi physique que philosophique. Il y a quelque chose où dans ces pratiques-là, le corps vacille, on le sent clairement, mais il continue. Ou métaphoriquement, comme la pensée trébuche, mais elle se réinvente et où en fait le il n'y a pas de vie sans déséquilibre. L'équilibre, c'est la mort. Et je crois qu'en physique aussi, c'est le cas. Et le déséquilibre n'existe pas. L'équilibre n'existe pas dans ma pratique, en tout cas. C'est un rétablissement, un réajustement perpétuel. Moi, ce qui m'a compris, de comprendre que le bonheur n'existait pas. Et que, comme le dit Emmanuel Cochère, le bonheur est une manipulation de soi-même. Mais c'est aussi prendre conscience que il n'y aura pas d'état de grâce. Il peut arriver, par exemple, moi, quand je tiens un objet en équilibre, des fois, il y a ce petit suspens qui fait, mais tout de suite derrière, il s'agit de réajuster, d'être plutôt dans une idée de gravité, de verticalité, transformer la gravité en verticalité. J'avais une phrase, moi, de Simone Veil, qui disait que elle parlait du déséquilibre de la grâce et qui fait basculer l'être vers une intensité spirituelle. Et moi, je me posais la question à l'inverse de pourquoi, en fait, il y a autant de ponts philosophiques par rapport à ça. Est-ce que il y a par exemple dans cette phrase une résonance réelle, si tant est que la physique soit la réalité et la poésie une autre adaptation artificielle? Je sais pas si ces ponts là moi ça voilà, c'est des choses sur lesquelles je travaille.
Peut-être qu'on peut dire que la poésie se vérifie par l'émotion qu'on en tire et la physique se vérifie par les expériences qu'on fait dans la nature pour essayer de voir si les prédictions sont correctes. Et là, par rapport à ce que vous disiez à l'instant et ce que disait Claudia tout à l'heure, il y a quelque chose d'amusant par rapport à la gravitation, parce que pour faire le pas Einstein, il a eu une idée qui est absolument phénoménale. Dans ce que décrivait Claudia de la gravitation de Newton, il y a une sorte de cadre qui est en fond d'écran, qui est là, qui bouge jamais, à l'intérieur duquel bougent les choses, mais le cadre lui-même, l'espace, le temps, ce que vous voulez, lui, il reste fixe, quel que soit ce qui se passe depuis toujours et pour toujours. Et ce qu'Einstein a apporté, c'est peut-être ce que vous appelleriez une autre forme de déséquilibre, Vima Laponce, à savoir que le cadre lui-même peut avoir une interaction avec ce qui se passe à l'intérieur. Que la raison pour laquelle vous n'êtes pas en train de vous envoler là, la raison pour laquelle cette gravitation que Newton cherchait existe, c'est parce que les objets, l'énergie, a une interaction avec le cadre lui-même. Elle le déforme. Et le déformant, ça crée des sortes de pentes dans l'espace et le temps. Et là, vous êtes en train de glisser le long de ces pentes. Et la seule raison pour laquelle on ne ressent pas ce glissement, c'est que le sol nous stoppe. Mais je suis certain que dans vos spectacles et dans vos performances, Vima Laponce, vous la ressentez, cette pente. Que vous remarquez bien que ce n'est pas que le centre de notre nombril qui est attiré vers la Terre, mais l'ensemble de notre corps, jusqu'au bout de nos doigts. Tout glisse le long d'une pente dans l'espace qui nous ramène vers le centre de la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle la relativité générale d'Einstein. C'est une interaction entre les objets et le cadre, qui est l'espace et le temps, et qui nous fait glisser vers les objets les plus massifs.
Oui, c'est vrai, parce que quand on... Alors moi, je porte un satellite sur ma tête dans ce nouveau spectacle, ce qui est très intelligent. Enfin, c'est un prototype de forme, mais qui est à échelle 1 de satellite, et sur les dimensions de Rosetta. Et c'est vrai que...
Rosetta, c'est un petit satellite qu'on a envoyé dans l'espace se poser sur une comète.
Ouais, pardon. Et c'est vrai que dans ce que vous dites, en fait, quand l'objet descend sur ma tête, il y a cette idée de se grandir, donc qui va avec ce que vous dites, et l'idée de, en ce moment, c'est pas du tout une domination de la gravité, c'est une éthique du maintien, et c'est pas du tout un triomphe sur la gravité, puisque ce serait idiot, mais c'est une sorte de négociation subtile, et l'écoute fine de, par exemple, de quand un objet en se déséquilibre, parce que c'est un équilibre sur la tête, donc c'est à l'aveugle, je sens le poids arriver sur un côté de la tête ou de l'autre, et c'est un et il faut rétablir comme ça.
Moi, je trouve ça assez amusant qu'à partir de ce genre d'intuition, qu'on a toutes et tous eu un moment, peut-être pas aussi réfléchi que vous, mais des personnes comme Newton ont trouvé des lois. Et des personnes comme Einstein ont trouvé une loi qui va au-delà de notre intuition. Newton, en gros, correspond à notre intuition. Einstein, il va au-delà. Il crée cette courbe dans l'espace et dans le temps qui se propage avec les objets. Mais il me semble que même la théorie de Newton, comme la théorie de Newton, la théorie d'Einstein a elle aussi ses limites, Claudia de Ram.
Oui, alors ce qui est vraiment beau dans la théorie d'Einstein, c'est reflété dans ce que vous dites, c'est que ça a une vie, et ça naît, ça évolue, ça change, la gravitation, elle s'adapte à nous autant qu'on s'adapte à elle, et ça c'est du point de vue physique, mais aussi du point de vue de notre compréhension. Et j'adore le terme que c'est une négociation de comment on interagit avec la gravitation, mais du point de vue de la compréhension, c'est également une négociation de comment est-ce qu'on arrive à la représenter, et elle a un effet autant sur nous que nous avons sur elle. Alors en effet, on sait dans la théorie d'Einstein que c'est pas la fin de l'histoire même. Et c'est comme ça, il y a une vie dans la recherche de la même manière qu'il y a une vie dans la gravitation. On comprend que maintenant, la théorie de la gravitation d'Einstein, c'est quelque chose qui est dynamique, et on comprend qu'en utilisant la courbure de l'espace-temps et l'effet que des planètes comme Mercure ont sur la courbure de l'espace-temps, ça nous permet de comprendre comment la trajectoire de Mercure tourne autour du Soleil, et on peut aller au-delà du système solaire, on peut aller au-delà de la galaxie, on peut faire ça tout au niveau de l'univers, mais il y a quand même des limites sur notre compréhension, même en utilisant les lois d'Einstein. Une des limites, et se trouve même dans notre galaxie. C'est pas quelque chose d'imaginaire. En fait, on voit les limites de la théorie d'Einstein. On voit. Et ce que j'adore, en fait, c'est que la théorie d'Einstein, elle prédit ses limites. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, idéal pour une théorie. On n'a même pas besoin de se dire où est-ce que je vais regarder, où est-ce que ça va clocher et faire des expériences pour savoir à quel moment ça ne marche plus. On sait déjà, du point de vue théorique, que la théorie d'Einstein, elle prédit l'existence de trous noirs. Le trou noir, ça paraît juste un terme de science-fiction, mais c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qui a été prédit par Einstein lui-même ou sa théorie elle-même. Et c'est ce qu'on peut appeler une singularité dans l'espace et dans le temps. Une singularité, c'est juste un moyen de se dire que c'est un endroit dans l'espace et le temps où la théorie n'est plus applicable. Et il faut autre chose. En fait, c'est une incroyable opportunité de comprendre ce qui se passe au-delà de notre compréhension de l'espace et du temps.
Et je crois que ces théorèmes de singularité prouvant qu'ils existent ont été posés, écrits et démontrés par deux mathématiciens et physiciens qui s'appellent Roger Penrose et Stephen Hawking dans les années 1960. Et pour aller jusque-là et peut-être même au-delà des problèmes que pose la gravitation pour Einstein, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la gravité, tout d'abord avec Flavien Berger dans Gravité et ensuite en allant au-delà d'Einstein. Nous sommes toujours en compagnie de mes deux invités, l'actrice et metteuse en scène Vima Laponce et la physicienne Claudia de Ram, qui est venue de Londres juste pour nous, et le public du studio 621.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Vima Laponce, vous aviez une question pour notre invité pendant la musique.
Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accès au réel, enfin de détenir une forme de réalité que par exemple moi j'expérimente très physiquement, concrètement, de manière néophyte mental, ça n'existe pas.
C'est de la science, on invente des nouveaux mots.
Oui.
Et pour des nouvelles expériences.
C'est ça, et que moi je transforme en métaphore. Et donc est-ce que... Donc en fait je quitte une forme de réalité physique que je ne connais pas par ailleurs aussi. Est-ce que vous comprenez ma question? C'est peut-être la première question. Et maintenant, dites ce que vous voulez.
Claudia
sera très intelligent.
Alors, pour être honnête, je crois que ma propre expérience avec la nature, elle est aussi néophytale.
On va utiliser ce mot dorénavant.
Elle est tout à fait néophytale et on peut interpréter ça comme on veut. C'est absolument pas une imposition sur notre compréhension de la nature. C'est un dialogue, en fait. Et c'est un dialogue en comprenant que... j'aime beaucoup comment vous décriviez le satellite qui se pose sur votre tête et vous devez négocier, vous devez essayer de le comprendre et s'adapter. Et ça, c'est en permanence le niveau de recherche qu'on fait. On comprend en permanence qu'on n'aura jamais accès à une réalité absolue. Et ce terme, je pense qu'il n'existe même pas. C'est vraiment essayer de comprendre et de dialoguer avec la nature et d'expérimenter avec la nature. Et c'est un va-et-vient. On essaye de se représenter la nature d'une manière qui est presque poétique pour nous, mais avec laquelle on puisse avoir un dialogue, on puisse pouvoir faire des expériences ou l'observer. On l'interroge. Et c'est une réponse à cette interrogation. La nature revient à nous avec des résultats et on s'adapte. C'est une danse en permanence, cette communication entre nous et avoir accès à des niveaux de plus en plus profonds de notre représentation du monde qui nous entoure.
Juste avant qu'on écoute de la musique, on était sur l'idée que même à l'intérieur de la théorie d'Einstein, il y avait des problèmes, des limites. Claudia Durham, vous parliez d'une de ces limites en particulier qui apparaît dans les trous noirs notamment, et qui est, si je la résume de la manière, on pourrait la résumer de la manière suivante. Depuis à peu près 100 ans, on a deux théories extraordinairement puissantes pour décrire le monde. Il y en a une qui décrit, disons, ce qu'est la gravitation et l'interaction entre les objets à grande distance. Et il y en a une autre pour ce qui est dans le minuscule, qu'on appelle la physique quantique. Les deux théories marchent extraordinairement bien, mais, car il y a un mais, elles ne se parlent pas. Elles n'ont pas forcément les mêmes notions d'espace, de temps, de ce qu'est un objet, de comment les choses doivent être. C'est pas très grave tant que ces deux notions restent séparées. Une très grande, une très petite. Mais dans les années 1960, on a réalisé que par exemple les trous noirs se formaient lorsque quelque chose de très gros devient extrêmement petit. Donc quand le grand devient petit. Du coup, les deux théories devaient se mettre à parler l'une avec l'autre et créer ce qu'on appelle la gravitation quantique. Et les théorèmes de Hawking et Penrose et ces gens-là ont montré qu'on était obligé d'avoir une théorie comme ça pour aller plus loin. Donc ça, c'est un des mystères d'Einstein, où on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Mais j'ai l'impression que votre travail, Claudia Durham, se rapproche aussi d'autres problèmes qui apparaissent dans la théorie d'Einstein, notamment avec la façon dont l'univers lui-même s'agrandit.
Oui, alors je vais parler de ça tout de suite, mais d'abord je vais revenir à l'aspect quantique si je peux, parce que je l'utilise en fait dans ma vie de tous les jours, et je l'utilise pour décrire comment notre compréhension de la gravitation et de tout ce qui se passe dans l'univers a un effet l'un sur l'autre. Et c'est vrai que on dit souvent qu'il y a la théorie de la gravitation d'un côté et celle quantique d'un autre côté, et les mettre ensemble ne marche pas. Et en fait... on peut tout à fait imaginer, en fait on n'imagine même pas, on peut tout à fait les mettre ensemble, c'est un peu comme une famille. Il y a différents membres de cette famille et dans la vie de tous les jours, ils discutent, etc. Mais comme dans toutes les familles, de temps en temps, il y a des moments où ça va pas. Il faut creuser l'abcès et les trous noirs, c'est un moment où vraiment on essaye de pousser à notre compréhension de la gravitation et celle de monde quantique au-delà de nos limites. Et c'est une opportunité pour nous d'essayer de comprendre comment on peut rétablir la notion d'espace et de temps à un niveau quantique. Le niveau quantique se dit que tout n'est pas continu, en fait. Il y a plusieurs manières de se représenter le niveau quantique, mais tout n'est pas continu. Et si on essaie de s'imaginer que le temps et l'espace ne sont pas continus, ça pose un problème au niveau, par exemple, des trous noirs. Mais dans la vie de tous les jours, moi, dans tout ce que je fais, j'utilise quand même nos notions de gravitation, nos notions d'ondes gravitationnelles, par exemple, qui ont été observées. C'est pas quelque chose qui est juste dans mon imagination. Et ces ondes gravitationnelles, on peut tout à fait les comprendre à un niveau quantique. En fait, les ondes gravitationnelles, c'est un peu comme les ondes lumineuses. On voit la lumière et dans notre vie de tous les jours, on a la lumière, on peut la mettre de plus en plus, plus ou moins intensité. Mais il y a un moment où l'intensité de la lumière devient si petite qu'elle est discrète. On peut pas avoir un niveau de lumière au continu comme on veut.
Discrète, ça veut dire que c'est des petits paquets de lumière.
C'est des petits paquets de lumière, ouais. Et je peux absorber un petit paquet de lumière, ce qu'on appelle un photon. Je peux absorber deux petits paquets de lumière. Je peux les recevoir. Ce serait deux photons. Mais je peux pas avoir quelque chose entre les deux. C'est l'un ou l'autre et rien entre les deux.
Il n'y a pas de demi-photon.
Il n'y a pas de demi-photon, exactement. On l'utilise, vous l'utilisez, nous les utilisons tous dans nos technologies de tous les jours, dans nos téléphones, dans toutes ces émissions, etc. Et c'est la même chose pour la gravitation. C'est la même chose pour les ondes gravitationnelles qu'on a observées. À travers nous, tous les jours, il y a des ondes gravitationnelles qui nous passent à travers, on les sent. On les sent pas tellement, elles sont très très faibles. Et donc, on va pas pouvoir réduire leur intensité au-delà, on pourra plus les sentir. Mais si on le faisait, pratiquement tous les scientifiques sur la planète, en physique théorique, sont d'accord qu'il s'agit des quantas, des petits paquets discrets d'énergie pour les ondes gravitationnelles.
L'équivalent des photons.
L'équivalent des photons, et on va l'appeler, puisqu'on peut inventer des mots, on va l'appeler graviton. Alors le graviton, c'est l'analogue du photon, et ça on peut le comprendre tout à fait. Et un aspect de ma recherche, c'est essayer de comprendre comment se représenter un graviton. On peut se dire que c'est une recherche qui est purement académique. Pourquoi est-ce que je vais essayer de peindre un graviton quand c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir observer demain? Mais en fait, puisque la gravitation a un effet sur tout l'univers, si on essaie de comprendre les aspects très subtils de cette particule fondamentale, le graviton, ça peut avoir un effet sur tout l'univers également. Et essayer de comprendre si cette particule, elle a par exemple une masse. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un graviton, pour le graviton d'avoir une masse? Eh ben, c'est en fait la même chose que pour la lumière. Je vais dire quelque chose qui a pas de sens maintenant. La lumière, elle se déplace à la vitesse de la lumière. La vitesse, elle se déplace à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que la vitesse, elle se déplace aussi vite qu'elle peut parce qu'elle est en fait pas freinée par une masse. Elle est pas freinée dans sa propagation. Elle est aussi libre qu'elle veut, entre guillemets. Et on essaie de comprendre la même chose pour la gravitation. Est-ce que la gravitation, elle est aussi libre qu'elle veut ou est-ce qu'elle a une masse au fond d'elle-même? Et ça, c'est des choses où en fait, quand on expérimente avec la gravitation d'un point de vue physique, comme Emma vous le fait tous les jours, et pour nous, d'un point de vue théorique, ce sont des questions essentielles. Quelle est cette interaction qu'on a avec la gravitation?
Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, si jamais le Soleil s'arrête de disparaître là maintenant, oui, est-ce qu'on sentirait en même temps sa gravitation partie et au même moment on ne le verrait plus? Ou est-ce qu'il y aurait un décalage entre les deux?
Alors exactement, dans la théorie d'Einstein, ça serait exactement de la même manière. Parce que dans la théorie d'Einstein, le graviton, qui est la particule quantique de la gravitation, c'est une particule qui a des propriétés assez similaires, d'une certaine manière, à celle du photon, à celle de la lumière. Et donc la propagation de l'information sur la gravitation est la même que celle sur la lumière. Et donc, au même moment où on est plongé dans l'obscurité parce qu'il n'y a plus de soleil, on sentirait que la
trajectoire... Terre partirait tout droit. Elle arrêterait de tourner, partirait tout droit.
Et ça, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de le voir en avance. Ça nous arrive les deux en même temps, on n'a pas besoin de se faire des soucis. C'est très bien.
Et peut-être pour faire le lien justement avec ces autres mystères que Einstein a dans sa théorie, il y a le très grand dans notre univers. Parce que pourquoi est-ce que ça changerait quelque chose que le graviton ait une masse ou non? Au-delà de la conséquence philosophique de voir ce qui se passerait quand le Soleil disparaît, ça pourrait avoir un impact sur la façon dont notre univers tout entier évolue. Il y a quelques années, des scientifiques ont réalisé que lorsqu'on regarde les galaxies lointaines, elles s'éloignent toutes de nous. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Et justement, il y a quelques années, a été vu potentiellement que, en plus, loin de freiner cette accélération avec le temps, elle accélère. C'est-à-dire que les étoiles, les galaxies lointaines s'éloignent encore plus vite, plus le temps passe. C'est exactement l'inverse de ce qu'on imagine lorsque deux objets sont attirés l'un vers l'autre. Ça devrait freiner. Et là, on voit l'inverse. On voit qu'il y a une expansion accélérée. Pour expliquer ça, les scientifiques ont introduit une énergie inconnue qu'on appelle l'énergie noire. Et j'ai l'impression, Claudia de Ram, que dans vos travaux, vous pouvez peut-être éliminer cette énergie noire.
Exactement. Alors en fait, on a introduit cette énergie noire pour essayer de réconcilier nos observations avec la théorie d'Einstein, en s'imaginant que la théorie d'Einstein, c'est la réalité de ce qui se passe à ces échelles-là. Mais c'est on n'a jamais vérifié, en effet. Et en effet, si la gravitation n'était pas tout à fait décrite par la théorie d'Einstein, mais il y avait une modification, et ça c'est un tout petit peu ce qui s'est passé en fait avec Mercure. On voit que la trajectoire de Mercure, elle cloche un tout petit peu, elle ne marche pas avec la théorie de Newton. Alors on a deux choix. Soit on se dit, eh ben, il y a peut-être une autre planète, ou on se dit, pour l'expansion de l'univers et son accélération, peut-être qu'il y a de l'énergie sombre qui explique cette dynamique. Ou bien alors, il faut qu'on utilise d'autres outils pour décrire ce qui se passe. Et peut-être que la théorie d'Einstein n'est seulement valable dans une certaine limite. Et en effet, si la théorie d'Einstein était valide dans notre vie de tous les jours, pratiquement dans toute l'échelle de l'univers, mais que maintenant nos observations deviennent si fines, si précise que finalement, on commence à voir les premiers signes que la théorie d'Einstein, elle a également une limite, non seulement dans le tout petit, mais aussi dans le très grand. Et si, en effet, le graviton, cette particule fondamentale de la gravitation, elle avait intrinsèquement, en elle-même, elle portait une petite masse, et bien, dans notre vie, dans tous les jours, ici, on ne la verrait pas. Cette masse, elle est tellement petite qu'elle est insensible. Nous sommes insensibles à elle. Mais si on accumule cette toute petite masse sur toute l'ensemble de l'univers et qu'on essaie de comprendre comment le phénomène de la gravitation, il est communiqué entre nous et puis des galaxies qui se trouvent de l'autre côté de l'univers observable de nous. Ça, c'est à des milliards de billions de billions de billions de kilomètres de nous. Donc, c'est vraiment des quantités non plus astronomiques, mais cosmologiques, vraiment. Et ben, des toutes petites différences, elles s'accumulent et peuvent avoir, en effet, un effet très grand sur l'univers. Et si le graviton lui-même avait une toute petite masse, il nous permettrait d'expliquer pourquoi les galaxies très lointaines, elles s'éloignent à un niveau accéléré par rapport à nous, sans avoir besoin d'utiliser une autre substance comme l'énergie sombre.
Ce que vous êtes en train de chercher, c'est une raison aux choses, et c'est pour ça que je vous propose d'écouter « What is the reason for it » de David Byrne.
Like someone else. is peace. Love is such a tasty treat, but when it's done, love is on, love is queer.
Nous sommes toujours en compagnie de mes deux invités, l'actrice et metteuse en scène Vima Laponce et la physicienne théoricienne Claudia De Ram qui nous arrive de Imperial College de Londres et évidemment le public du studio 621.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Et c'est l'heure de prendre les questions du public. Nous avons une première question, nous vous écoutons.
Bonjour Vladimir, vous avez expliqué tout à l'heure que la théorie de Newton était universelle et pourtant lorsqu'on lance des fusées, on ne lance pas partout sur Terre mais à des endroits bien précis. Pourquoi est-ce que c'est vraiment universel partout sur Terre?
Ah ok, excellente question, je peux le répondre à moins que Christophe...
Oui bien sûr, Claudia Virec.
Alors, en
Claudia
effet...
De Ram, pardon.
En effet, le terme universel peut paraître à confusion. Universel, ça ne veut pas dire qu'on est... la gravitation est à la même force partout, la même amplitude partout. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on est tous égaux par rapport à notre réponse à la gravitation. On a une expérience, par exemple, un astronaute David Scott sur la Lune qui lâche une plume et un marteau sur la Lune. Et pas parce que la gravitation est différente sur la Lune, mais parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Alors, on n'est pas embêté par d'autres aspects comme la résistance de l'air sur la Lune. Et puis, il voit que je propose de montrer la vidéo, c'est vraiment très bien. Voit que la plume et le marteau, ils tombent exactement au même rythme. C'est de ce point de vue-là que la gravitation est universelle par rapport à Newton, ou du point de vue qu'on peut utiliser les lois de la gravitation pour expliquer ce qui se passe ici sur Terre, mais aussi pour expliquer ce qui se passe autre part dans l'univers. Et ça, c'est un schéma de pensée qui est assez révolutionnaire, parce que autrement, on se dirait que les choses ne marchent qu'à une certaine échelle, et après, il faut une autre théorie pour expliquer les choses à d'autres échelles. Mais ça ne veut pas dire que tout est équivalent sur Terre. Et on envoie les satellites depuis, par exemple, plutôt l'équateur plutôt que le pôle Nord, parce que la Terre, elle n'est pas tout à fait ronde, elle est un tout petit peu aplatie. Et donc, à l'équateur, on est un tout petit peu plus loin du centre de la Terre. Et donc, on est un peu moins affecté, un tout petit peu moins, mais quand même, c'est important, par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Et donc, c'est plus facile d'envoyer des satellites, d'envoyer des fusées depuis cet endroit-là.
Et il y a la vitesse de rotation de la Terre qui nous permet d'aller plus vite lorsqu'on est autour, pas trop loin de l'équateur. Si on part du pôle, on part avec une vitesse nulle. Alors que lorsqu'on part de là-bas, on part d'une vitesse qui est plus importante déjà. Une question de Gérard.
Oui, bonjour. De mes souvenirs de physique, la masse, c'est l'inertie. Et du coup, je me posais la question, comment ça peut accélérer encore plus vite si on a une inertie plus importante?
Ah, c'était une question excellente,
et
vraiment.
On va redéfinir tous les termes, Claudia, alors, de Ram avant peut-être.
Ah oui, alors la masse, c'est une masse inertielle. En fait, ça porte également assez souvent à confusion parce qu'on utilise le terme masse et puis ne me demandez pas ce que masse veut dire. C'est très, très subtil comme terme. Mais on peut se représenter la masse comme deux choses. Il y a la masse inertielle qui se dit, si j'ai un objet et que j'essaye de le bouger, Si cet objet, il a une masse inertielle plus grande, moi, ça va être plus difficile de le bouger. Et ça, on le voit quand on essaie de tirer notre valise. Ça a une masse inertielle qui est plus grande. Et il y a un autre terme de masse qu'on utilise, qui est notre masse gravitationnelle. Et c'est plutôt notre réponse à l'attraction gravitationnelle. Donc en fait, quand on prend l'avion, par exemple, ce qu'on essaye de faire, la raison pour laquelle on pèse nos valises quand on va dans l'avion, c'est qu'on essaye de pas avoir une masse gravitationnelle trop grande, parce qu'on aimerait que notre avion il puisse s'échapper un tout petit peu de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Et donc l'idée, c'est que cette masse gravitationnelle, elle soit quand même un peu plus petite. Mais souvent, on mélange le terme de masse gravitationnelle et le terme de masse inertielle, qui sont deux concepts qui pourraient être assez différents, parce que le côté universel de Newton, qui a été également compris par Einstein, c'est de réaliser qu'il y a une équivalence absolue entre cette masse inertielle, notre réponse au mouvement, notre réponse au changement, et notre masse gravitationnelle, qui est notre réponse à la gravitation. Et ça, je pense que Vimala, vous l'utilisez tous les jours quand vous expérimentez avec la gravitation. Il y a cet côté de réponse au changement, puis ce côté de réponse à la gravitation dans la masse. Mais je vais vous répondre à votre question par rapport à pourquoi changer la masse inertielle de la gravitation, ça change l'évolution de la gravitation à de très très grandes distances. On pourrait se dire que c'est l'opposé. Et la raison pour laquelle, c'est que si la gravitation avait elle-même une masse inertielle, en soi, elle serait freinée un petit peu. On pourrait dire qu'elle serait un peu plus paresseuse. Elle n'aurait pas envie d'aller voyager jusqu'au l'autre bout de l'univers de la même manière. Et donc ça nous dit qu'elle est incapable d'avoir un effet sur des galaxies très très lointaines de la même manière que Einstein l'aurait prédit. Et donc, au lieu d'avoir toute cette masse et cette énergie dans l'univers qui s'attire et qui devrait faire ralentir l'expansion de l'univers, parce que la gravitation, elle est un peu paresseuse, à très grandes échelles cosmologiques, l'expansion de l'univers, elle s'accélère.
Et bien pour essayer d'échapper à cette gravitation dans cette émission, à chaque fois je vous fais écouter un son mystère. Là, ça va pas être un son si mystérieux que ça. J'ai envie qu'on ressente tous et toutes, ne serait-ce qu'avec Louis, en audio, ce que c'est que d'essayer de quitter le sol de la Terre pour aller dans l'espace. Et donc on va écouter ensemble le bruit que fait un décollage de fusée.
Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Ready for that, Hamilton.
Vous entendez ce craquement là. Il se trouve que j'ai eu la chance en 2006 d'aller assister au décollage d'une fusée je crois que c'était Atlantis, de la navette spatiale qui avait des astronautes à bord. Et je crois que physiquement, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça à tel point l'air lui-même crépite et c'est nos os à l'intérieur du corps qui se mettent à vibrer. Tout le monde tous ceux qui étaient en costume, en cravate, se mettent à hurler. C'est vraiment physiquement quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour essayer de comprendre peut-être même encore un petit peu mieux d'un point de vue humain à quoi correspond un décollage comme ça, on a eu la chance de pouvoir parler avec Claudie Aigneret au téléphone. Claudie Aigneret qui est astronaute, première femme française à être allée dans l'espace en 1996 pour la mission Cassiopée et qui va nous expliquer ce que l'on ressent lorsqu'on essaye d'échapper à la gravitation terrestre.
Commencer par ce moment assez magique où on se retrouve au sommet de la fusée Soyouz, installée dans la capsule au pâtir de Baïkonour, et qu'on va entendre ce mot Zajigan qui veut dire la mise à feu. Alors voilà, notre fusée Soyouz est érigée sur le pâtir. la mise à feu, il y a 3 étages de propulsion successifs qui vont nous faire atteindre la vitesse de satellisation de 28 000 km/h. Bien évidemment, pour passer de 0 km/h à 28 000 km/h, on va ressentir sur soi des facteurs de charge qui correspondent à 4G et demi. C'est-à-dire qu'on ressent 4 fois le poids de son corps. Premier étage de propulsion, hop, cet étage s'éteint. On redescend à une gravité normale, puis on repart en propulsion. Deuxième étage de propulsion, on réatteint ces 4G. Le deuxième étage s'éteint. Et ensuite, le troisième étage qui va nous emmener à l'insertion en microgravité. Et là, en 8:45, on passe de 4G à 0G. C'est-à-dire que la vitesse de satellisation de 28 000 km/h va nous permettre de tourner autour de la Terre, de tomber autour de la Terre. On va se retrouver dans cette situation de chute libre permanente. Et quand on est en chute libre, eh bien, il n'y a plus rien qui va vous donner ce sentiment d'avoir un poids. Puisque le poids, en fait, n'est qu'une réaction à sentir quelque chose qui va s'opposer à votre chute. Là, on est en chute libre. Et c'est là où on découvre effectivement cette sensation d'apesanteur. La gravité est toujours là, mais on ne ressent pas les effets du poids. On est en apesanteur.
Claudie Agnuret me disait que c'était quelque chose d'extrêmement agréable de ressentir cela. Vimala Pons, vous qui mettez la gravitation en scène, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre quelqu'un comme ça qui part dans l'espace ?
Je me souviens plus quel astronaute j'avais entendu dire que quand il était revenu sur Terre, même ses oreilles lui paraissaient très lourdes sur sa tête et qu'il avait une montre. Et que ça lui faisait l'effet d'une boule de bowling. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi assisté au décollage d'une fusée en Guyane, et qu'il y a quelque chose de très, d'extrêmement bousculant et déstabilisant là-dedans. Et c'est vrai que aussi, quand on interroge comme ça notre rapport au sol, notre rapport au corps, notre rapport à la chute, on interroge aussi notre rapport à la liberté. Moi, c'est ce que je me dis aussi, et métaphoriquement aussi, au poids. Qu'est-ce que le poids des sentiments, le poids de l'amour, le poids du transgénérationnel, le poids de la moralité, des normes sociales. Donc voilà, j'ai pas du tout répondu à votre question.
Mais si, au contraire, c'est quelque chose... De se rendre compte de l'énergie qui est nécessaire pour quitter la Terre nous donne une petite idée aussi, dans l'ordre des choses, de la puissance de la gravitation, qui pourtant... dans l'aspect microscopique de notre monde, n'a pas grande importance et qui soudain devient, lorsque s'accumule de la matière, lorsque s'accumule de l'énergie, l'énergie dominante de notre univers, et elle donne peut-être à nos émotions aussi un certain poids.
Moi, juste l'humour me fait penser au pied de la lettre, être aussi par rapport à la gravité dans le sens... bref, vous avez compris.
Comme vous pouvez l'entendre, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. C'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Claudie Agnuret d'avoir partagé son expérience avec nous. Merci à vous, Claudia de Ram. Votre livre, La beauté de la chute, est disponible aux éditions Canto. Et merci à vous, Vimala Pons. Votre spectacle, Onda Romance, est au théâtre de l'Odéon jusqu'au 26 octobre avant de tourner dans toute la France. Et merci bien évidemment au public du studio 621 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Gaspard Guy Bourget, à la vidéo Guillaume Ficheux, et à la préparation et à la programmation la fabuleuse Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec 2 scientifiques et un invité mystère pour 2 émissions à la Maison de la Radio. Nous parlerons du système solaire pour la première et des trous noirs. Rendez-vous dès maintenant sur le site de la Maison de la Radio et de la musique pour réserver vos places.